Être payé pour contribuer au bien commun en participant à des logiciels libres, est-ce envisageable? Est-ce possible? Est-ce correctement rémunéré? Avant de se poser la question, il y a surtout la problématique du financement de ces logiciels qui sont par essence à redistribution gratuite. Nous profitons de sa venue au Capitole du Libre pour recevoir Ludovic Dubost, gentil créateur et gentil organisateur de XWiki, fondateur et dirigeant de l'entreprise XWiki, contributeur au logiciel CryptPad. CPU carré petit utile. Comment vous êtes passé au logiciel libre ?
J'ai été employé de Netscape. Quand Netscape a commencé à avoir un peu quelques difficultés dans sa concurrence, entre autres avec Microsoft, à un moment donné, Netscape a décidé de mettre le logiciel Netscape, le navigateur, en logiciel libre, en open source, pour créer Mozilla. Et donc, ça m'a fait découvrir en fait ces principes-là, les principes qu'il y avait derrière le logiciel libre et aussi les principes de standard ouvert, qui est quelque chose que Netscape poussait beaucoup. Face à d'autres acteurs de l'industrie. Et donc, j'étais sensibilisé à ces aspects à la fois de standard ouvert et de logiciel libre. Quand j'ai quitté Netscape, j'avais même candidé pour bosser chez Mozilla. Et finalement, j'étais parti dans une start-up française dont j'ai été directeur technique. Et là, après, on a commencé à utiliser des logiciels libres dans notre infrastructure. Et puis finalement, quelques années plus tard, j'ai quitté cette société qui avait été rachetée par une société américaine. J'avais décidé de créer une entreprise et dans cette création d'entreprise, j'avais trouvé que le logiciel libre en termes économiques s'était beaucoup développé en 5 ans. En fait, après Netscape, la société dans laquelle...
En 98, hein, c'est on ça. Parle de la libéralisation
j'ai quitté, du... Voilà, j'ai quitté Netscape en 98 et j'ai travaillé pour une start-up française pendant 5 ans. Dans ces 5 ans, les choix techniques que j'avais faits en fait, pour cette start-up, dans le cadre de cette start-up, je me suis rendu compte que 5 ans plus tard, si je devais refaire ces choix-là, j'aurais massivement mis plus de logiciels libres. Il y avait une sorte d'évidence technologique qui avait quelque chose de vraiment puissant dans le mouvement du logiciel libre au niveau technologique. Là, je ne parle pas du tout des aspects économiques ou éthiques qui vont derrière. Je n'étais pas forcément sensibilisé à ces problématiques. C'est venu plus tard pour moi. Mais au niveau technologique, j'ai vu un mouvement qui était fort parce que justement, je m'étais posé en disant bah, qu'est-ce que j'aurais changé de mes choix 5 ans plus tôt. Et ça, je pense que d'ailleurs, tout ingénieur devrait faire ça. C'est-à-dire que finalement, après quelques années, si je devais refaire les mêmes décisions, quelles décisions je prendrais aujourd'hui par rapport à il y a 3 ans, il y a 5 ans, parce que la technologie bougeant très vite, ça permet de se remettre en cause. Et c'est ce que j'avais fait. Donc ça m'a amené ensuite vers le logiciel libre lors de la création d'XWiki.
Dans votre précédent employeur, donc la start-up en question, vous avez pris le logiciel libre parce que c'était gratuit de licence ou parce que ça répondait à une problématique par rapport à d'autres logiciels ?
En tant que start-up, on est forcément focusé sur le résultat. C'est-à-dire qu'on a un objectif, il faut faire des choses. Après, chaque ingénieur, il peut avoir un peu sa pratique. On était plusieurs à venir de Netscape et on était très sensibilisés à la notion de standard ouvert et à la notion de lock-in et aux problématiques de protection. Parce que une des choses, en fait, ce que le message que faisait passer Netscape pendant des années, c'était pas un message de logiciel libre, mais c'était un message de standard. Et ils sont très proches, en fait. Il y a des choses vraiment très proches dans ces messages.
Enfin, un standard, quand même, c'est édicté par des entreprises pour écarter d'autres concurrences. C'était quand même la notion originelle de standard telle qu'on pratiquait au 19e.
Sauf quand c'est un standard ouvert. Et si on revient un peu dans l'histoire, Netscape a aidé à imposer SMTP, a aidé à imposer LDAP, a aidé à imposer HTTP en faisant des serveurs qui faisaient exactement la même chose que les serveurs que faisaient IBM et Microsoft à l'époque. Ça s'appelait Microsoft Network dans le cas de Microsoft. Ça s'appelait AOL et c'était tout basé sur des standards propriétaires fermés sur lesquels personne ne pouvait se brancher. Et Netscape, en fait, apportait des solutions technologiques basées sur des standards ouverts. C'était pas de l'open source, le logiciel n'était pas gratuit, mais en fait, on pouvait faire communiquer deux logiciels qui n'étaient pas faits par les mêmes fournisseurs. Et ça, c'était un point qui était très important. Et le message qu'il y avait derrière, la façon de commercialiser ça de Netscape, c'était de dire, vous devez éviter de vous enfermer sur un fournisseur et de vous bloquer avec ce fournisseur. Quand moi, j'étais en position de faire des choix technologiques, ce message d'enfermement dans la technologie d'un fournisseur, je l'avais bien en tête. Par exemple, Nous, on a utilisé des bases Oracle à aucun moment. On n'avait pas trop le choix, en fait. On avait besoin de choses qui scalaient beaucoup. On avait acheté des machines Sun, Unix, Solaris, qui étaient propriétaires à l'époque, qui est devenu open source plus tard. On faisait tourner nos bases de données sur des bases Oracle, mais on avait des bases de 13 Tera qui, pour l'époque, étaient énormes. En fait, on avait des grosses difficultés parce qu'en fait, notre startup faisait de la mesure d'audience des usages d'Internet à base de panels, je précise, hein, pas en traquant les gens contre leur gré. Et on faisait des statistiques, et donc on récoltait de la data, donc on faisait du big data, on pourrait dire. Et donc à l'époque, les matériels pour faire ça n'étaient pas du tout simples à mettre en œuvre. Et donc on utilisait du Oracle, mais en fait, quand on a mis Oracle, on s'en tenait stricto sensu au standard SQL pour pouvoir se dire, si demain je veux changer de base de données, je peux le faire. Et on n'utilisait pas les procédures stockées de Oracle qui nous enfermaient dans le système du développeur de base de données. Et donc à ce moment-là, on a développé avec Java, on faisait des développements et on utilisait le plus possible des logiciels standards. Et on a commencé à utiliser les premiers logiciels open source. Donc on a commencé à utiliser le serveur Apache JServe, qui est le serveur avant Tomcat. On utilisait des serveurs HTTP, on a utilisé des serveurs de Netscape aussi. Petit à petit, j'avais cette idée qu'il fallait qu'on soit standard et qu'on soit open, qu'on puisse remplacer des briques technologiques. En tant qu'utilisateur, c'était ça qui guidait mes décisions. Et je pense d'ailleurs que ça reste des bonnes décisions pour toute DSI de ne pas s'enfermer vis-à-vis d'un fournisseur. Et l'open source est un de ces moyens pour ne pas s'enfermer vis-à-vis de ses fournisseurs. Mais c'était ça qui m'a amené à comprendre comment fonctionnait le logiciel libre. Le logiciel libre est quelque part un peu ultime dans le fait de ne pas s'enfermer. C'est l'étape d'après le standard. C'est qu'au-delà du standard, on ne s'enferme pas non plus parce que le logiciel lui-même, on peut continuer à l'utiliser. Même si le fournisseur faisait défaut ou on s'entendait plus avec lui.
C'est extrêmement intéressant parce que vous parlez, vous, en tant que client, donc d'entreprise fournisseur, et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez donné plusieurs exemples qui datent des années 90, de la décennie 2000 et un petit peu décennie 2010, c'est-à-dire d'entreprises qui, au bout d'un moment, étaient très bien en situation et qui se sont mis à libérer soit vers l'open source, voire vers le logiciel libre, leurs produits, parce qu'elles étaient en difficulté puisqu'elles n'étaient plus en leader ou en position dominante, que cela soit justement Netscape, Sun, Oracle, puisqu'ils y sont venus, mais eux par croissance externe. C'est un moyen d'essayer de survivre, c'est illusoire, ou c'est finalement de bonne guerre après avoir facturé très cher les licences?
C'est vrai qu'en fait, dans le cas de Netscape, au début, vendait son navigateur.
Et Netscape Server aussi, oui.
Et Netscape Server. Elle vendait le navigateur, elle allait voir les fournisseurs d'accès Internet, elle disait, vous avez besoin d'un navigateur pour vos utilisateurs, vous allez payer, je sais pas, 1 euro, 10 euros, 20 euros, essayer de vendre l'ordinateur. De la même manière que Microsoft vend son OS, les fabricants de PC vendent des ordinateurs, ils ont besoin d'un OS sur cet ordinateur, et en fait, ils payent Microsoft pour mettre l'OS Microsoft sur cet ordinateur. En fait, à un moment donné, Microsoft a mis son navigateur gratuit dans l'OS Windows, qui était l'OS dominant de l'époque. Petit à petit, les parts de marché du navigateur Netscape ont chuté. À ce moment-là, Netscape s'est rendu compte que s'il perdait complètement les parts de marché du navigateur, c'est toute la structure derrière qui s'écroulait, y compris les ventes de serveurs, etc. Et donc finalement, la stratégie de mettre en open source le navigateur, c'était une stratégie de réaction face au fait que Microsoft avait une position dominante et pouvait imposer un navigateur au marché, a mis son navigateur en open source, ce qui n'a pas résolu tout, hein, parce que ça a pris des années pour que Mozilla reprenne des parts de marché, des années pendant lesquelles on a pu voir que Microsoft n'a pas fait évoluer Internet Explorer. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient repris la domination sur le navigateur, en fait, ils ont, une fois qu'en gros ils avaient tué Netscape, hein, c'est ce qui s'est passé, ils ont arrêté d'innover et ils ont continué leur business à eux, c'est-à-dire vendre Microsoft Office et compagnie et vendre l'OS, voilà, jusqu'à qu'une nouvelle étape arrive. Alors c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que souvent l'open source est une stratégie de réaction. Donc Android, on peut considérer que c'est une stratégie de réaction pour gagner le domaine du mobile face à Apple à l'époque, puisque c'est Apple
et Nokia surtout.
Apple et Nokia, mais Nokia n'avait pas grand-chose dans les smartphones à l'époque. L'objectif, c'était de gagner la domination. Et c'est là où l'open source, de temps en temps, se rattache à une stratégie de freemium. C'est-à-dire on donne quelque chose de gratuit et on donne en fait un quelque chose de gratuit plus puisqu'on donne aussi le source. En donnant Android, Samsung a pris, ils ont vu qu'ils pouvaient le modifier, l'adapter à leurs besoins, mais quelque part Google contrôle quand même Android et puis ils ont créé un engouement autour du mouvement Android jusqu'à avoir la domination et puis maintenant ils ont quelques stratégies pour essayer de refermer le système autour en particulier des apps Google. Google ne s'intéresse pas à l'OS, il s'intéresse aux apps qui sont dessus. Leur objectif, c'est d'y mettre les apps et d'y mettre les systèmes de tracking que eux ils ont, parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir l'OS complet pour faire du tracking. Ils ont juste besoin de réussir à imposer leurs applications aux fabricants de téléphones. Si Samsung est quasiment obligé de mettre Google Maps, tout va bien pour Google. Si le moteur de recherche Google.fr reste le moteur dominant, tout va bien. Donc, ils donnent quelque chose de gratuit avec un autre objectif derrière. Et c'est vrai qu'une grande masse du logiciel libre utilise cet aspect-là.
Vous-même, est-ce que vous êtes mis à participer ouvertement à des projets open source ? Pas pour des raisons payées, mais uniquement pour des raisons personnelles.
Alors, moi, personnellement, pas tellement. J'ai dû faire une contribution à un moment donné à Mozilla. quand j'étais chez Netscape, j'avais trouvé un bug sur un truc JavaScript et j'avais regardé le code. C'était plus un challenge technique de voir si je pouvais trouver la cause du bug et le fournir aux développeurs. Donc, j'ai fait ce que font d'ailleurs beaucoup de gens quand ils contribuent et qui a une grande valeur en fait dans l'open source, c'est d'aider à trouver les bugs et à les corriger. Et parfois c'est pas beaucoup de lignes de code, mais c'est beaucoup de temps parfois pour trouver la cause. Et toutes les lignes de code n'ont pas la même valeur en termes de coût en fait pour celui qui crée le logiciel libre. L'aide que peuvent apporter les gens qui trouvent un bug et qui l'identifient et voire qui trouvent la ligne de code qui va pas bien, c'est une aide qui est vraiment importante. Dans la société où j'étais, on n'a pas spécifiquement contribué. On était plus utilisateurs de logiciels libres. Et puis après, je suis passé plutôt du côté j'en crée un. Par contre, mon directeur technique qui m'a rejoint ensuite sur XWiki quelques années après que je démarre XWiki, lui, il avait beaucoup contribué sur son temps libre. Il avait géré des communautés open source purement collaboratives, en fait, qui n'avaient pas d'entreprise derrière. Il gérait un projet sur JUnit, par exemple, sur les tests unitaires. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et c'est aussi comme ça que je l'ai embauché parce que j'étais convaincu qu'il fallait quelqu'un qui sache gérer une communauté. Dans l'équipe et que c'était pas forcément ce que je savais faire ou le rôle que j'avais au niveau de l'entreprise.
Vous-même, la première fois que vous avez découvert le concept de logiciel libre, quelle a été votre réaction ? C'est comment ils font pour survivre ?
Non,
je pense. Ou comment fait-on pour le financer ?
Non, c'est venu beaucoup plus tard, en fait, cette problématique-là. En fait, c'est venu plus tôt quand on a commencé à me poser la question. En fait, au début, c'était vraiment un choix.
Donc, il y a 5 secondes, quoi.
Non, il y a beaucoup plus tôt. j'étais plutôt sur un aspect technologique du logiciel libre et sur l'aspect open standard, ouvert, pas de lock-in, comme un argument commercial auprès des clients. Par contre, dès que j'ai commencé à créer la société XWiki, on a commencé à me poser la question, mais comment vous allez gagner votre vie ? Donc, on va voir la banque, ils disent, bon, bah, très bien, vous voulez faire du logiciel libre, super. Alors, pourquoi j'ai fait des logiciels libres déjà dans le cas d'XWiki ? Mon sentiment, c'est que le logiciel libre avait un avenir vraiment important au niveau de l'industrie. Et la deuxième chose, c'est que le sujet sur lequel je m'étais mis, les wikis, avec XWiki, en fait, était issu quasiment que du logiciel libre. C'est-à-dire que tout avait été créé en logiciel libre. C'était une invention libre par le créateur du wiki qui avait créé un wiki open source. Il y avait des dizaines de logiciels wiki. Moi, j'avais utilisé un logiciel wiki en tant que directeur technique dans ma boîte comme utilisateur. Alors oui, j'avais contribué d'ailleurs à ce logiciel. Enfin, maintenant que tu me le rappelles, je me rappelle que j'ai contribué en fait à Twiki, le wiki qu'on utilisait dans l'entreprise. J'ai aussi contribué à Bugzilla, qui était l'outil de gestion de tâches qu'on utilisait. On avait mis ces deux logiciels libres dans l'entreprise. Ces innovations venaient du libre et je voulais faire une entreprise autour de ça. Et je me suis dit, techniquement, plutôt, je pense qu'il y avait besoin de refaire les logiciels, de faire quelque chose de mieux que ce qui existait. Donc, j'ai décidé de faire mon propre logiciel plutôt que me baser sur un logiciel existant. Et à ce moment-là, ça a été assez naturel de le faire en libre. C'est-à-dire que ça venait du libre, je vais le faire en libre. Après, c'est posé la question de créer une boîte pérenne autour de ça. Et donc, il fallait dire comment ça marche. À l'époque, il y a eu Red Hat et JBoss. En fait, Red Hat est une boîte qui a éclos dans la bulle Internet, qui a récupéré pas mal de sous et a pu développer un modèle autour de Linux. Et il y a eu JBoss, créé par un Français polytechnicien, qui a créé la plateforme JBoss et qui ensuite l'a vendue à Red Hat. plus tard. Et donc, ça a montré des business models, des sociétés qui arrivaient à se développer à base de logiciels libres. Alors, on pourra revenir sur ces cas particuliers et sur JBoss, par exemple, mais ça laissait entendre, bon, c'est possible de faire des entreprises commerciales ou des startups de type logiciel libre. Et donc, bah, je me suis lancé sur le logiciel XWiki de cette façon-là. Mais je m'étais toujours pas posé ces problématiques d'éthique. Et j'étais pas rentré vraiment dans le détail des problématiques de financement, et en particulier des problématiques de financement quand c'est pas de l'investissement de capital risque. En fait, j'étais encore dans le mode les startups, on lève de l'argent, et JBoss, c'est ça qu'ils ont fait, ils ont levé de l'argent et ensuite ils l'ont revendu à Red Hat. En fait, quelque part, la partie revenu, elle n'a pas été complètement validée, ou la partie financement autonome n'a pas été complètement validée dans ces entreprises-là.
Et vous-même, personnellement, est-ce que vous contribuez financièrement à du logiciel libre?
Alors, ça m'arrive. Pas tant que ça, parce que je mets déjà pas mal de mon argent dans ma propre société et finalement dans le fait de continuer à la faire fonctionner. Et j'investis beaucoup de mon temps là-dessus. Mais il m'arrive de contribuer. J'ai contribué à PeerTube, par exemple, dans le crowdfunding de PeerTube. Et puis après, autrement, ma société, ses ingénieurs sont encouragés à remonter des correctifs sur les logiciels que nous, on utilise.
Vous leur déléguez du temps pour cela
ou... Non, pas spécifiquement, c'est juste, c'est naturel. En fait, ils savent qu'ils ont le droit de le faire et que ça fait partie du bon fonctionnement de l'écosystème. Donc, quand on trouve des bugs, on les remonte, et on discute avec la communauté de l'autre côté pour ramener et pour être proactif, c'est-à-dire pas pour juste dire tiens, en fait, on a trouvé un bug dans votre truc, vous voulez pas nous le corriger? Non, c'est plutôt de dire voilà, on va aider à l'identifier, voire le corriger et le remonter. Par exemple, on a des ingénieurs chez nous, on contribuait à CK Editor, on corrigeait des bugs sur CK Editor.
Qui est un éditeur HTML en WYSIWYG.
Qui est utilisé.
Connaissez-vous des entreprises dont l'open source n'est pas le business et qui consacrent des moyens financiers et pas uniquement humains sur des projets open source ou logiciels libres? Et quand je dis moyens financiers, c'est-à-dire d'une manière conséquente.
Oui, bien sûr. Alors, je pense que c'est probablement la majorité du code open source qui est créé aujourd'hui. L'open source est visiblement gros aujourd'hui, plutôt par le fait que les sociétés de technologie participent sur les briques non critiques à leur business. Quand je dis non critique, c'est-à-dire que c'est pas la valeur clé de ce qu'ils apportent, mais par contre ils en ont besoin et donc ils contribuent à ces éléments-là. Et en particulier sur tous les logiciels d'infrastructure. En fait, toutes les briques d'infrastructure logicielle de quasiment toutes les plateformes cloud aujourd'hui sont de l'open source, et c'est parce que en fait toutes les sociétés qui commercialisent des services sur le cloud ont besoin de ces systèmes.
Oui,
et
ils peuvent adapter, mais pas reverser à la communauté. Il y en a certains qui, eux,
oui, non, mais ils ne seraient pas créés du tout dans ce cas-là, parce qu'ils en ont besoin, donc ils les ont développés souvent. Donc Google a développé des logiciels libres et reverse des logiciels libres. Après, effectivement, il y a tout un pan aussi de sociétés qui ne font que les prendre. Donc après, donc justement, il y a des termes qui sont utilisés, makers and takers, et les free riders, c'est ceux qui prennent et qui reversent pas. Après, il y a des sociétés où leurs ingénieurs reversent, mais sans que ça se sache, ou sans leur donner spécifiquement du temps, ou sans imposer du temps. Amazon reverse pas beaucoup, et ils utilisent beaucoup. Donc il y a de tout, mais ce qu'il faut voir, c'est que en fait beaucoup des logiciels d'infrastructure ne seraient pas au niveau où ils sont aujourd'hui s'il n'y avait pas tous les utilisateurs qui les ont financés. Enfin, tous les logiciels ont été financés d'une façon ou d'une autre. Il y a quelqu'un qui a été payé pour le faire, donc c'est ceux qu'on en a besoin qui le font. Là où il y a une sorte de cassure, c'est quand on se rapproche de l'utilisateur final. C'est-à-dire, en gros, les logiciels utilisés par les sociétés qui ont une capacité technologique vont finalement être souvent des logiciels open source, parce que finalement ces sociétés qui ont une capacité technologique vont les développer et vont mutualiser le coût de développement entre eux ou avec d'autres sociétés. Par contre, quand on se rapproche de l'utilisateur final, l'entreprise non technologique n'a pas de capacité de développement et n'a pas la maîtrise, et elle va acheter plutôt, et finalement, elle ne sait pas contribuer, elle ne sait pas forcément faire, ou en tout cas, elle ne crée pas les structures pour le faire, et c'est plus compliqué. L'État est un peu pareil, il est un peu entre les deux, il peut contribuer, ça arrive, l'État contribue des logiciels libres, mais il est quand même plus consommateur de logiciels que créateur.
Vous connaissez des entreprises qui, du coup, participent pour corriger un bug ou pour ajouter une fonction, qui sont prêts à payer à la structure derrière, ou qui sont prêts à prendre un freelance pour dire, est-ce que vous pouvez contribuer pour m'arranger ça, ça m'aiderait ?
J'en ai vu un petit peu, mais c'est pas extrêmement visible, en fait. C'est pas très visible. J'ai vu quelques conférences où, justement, il y a des sociétés qui essayent de mettre en avant une culture interne, soit de faire des donations, soit payer des bounties de correctifs, etc. Nous, dans notre vie de XWiki, on a rencontré tout un tas d'entreprises commerciales. On leur a expliqué comment fonctionnait notre modèle et ils nous ont payé des améliorations du logiciel. Ils en avaient besoin, ils l'ont payé. On a expliqué la différence entre le faire que pour eux, le faire et le remettre sous forme de logiciel libre pour que ça devienne, que ça soit partagé ensuite pérenne, et ils nous ont payé des améliorations au logiciel, ça a été remis en open source, etc. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Ça vient pas tant que ça du client. Les clients sont pas encore bien dans le truc, mais ça commence à venir. En fait, c'est plus une stratégie IT que les grands donneurs d'ordre doivent mettre en œuvre, en se disant, je vais développer une culture d'utilisation de logiciels libres déjà en interne et ensuite de reversement. Je me rappelle d'un truc qui était intéressant, c'était la circulaire Hero qui indiquait qu'il faudrait reverser 10% des projets qui utilisent du logiciel libre vers la production de logiciels libres. C'est un bon principe, en fait, dans l'aspect. C'est-à-dire finalement, si on décide que le logiciel libre est une bonne solution technologique en tant qu'utilisateur, on doit se poser immédiatement la question du financement de ça. C'est complètement incohérent pour un utilisateur de se positionner uniquement en preneur de gratuité.
C'était d'ailleurs un petit peu ce qu'avait commencé Next Impact avec ses procédures CADA auprès de l'administration, en demandant donc la communication des pièces, en demandant justement le code source de certains logiciels des impôts, celui qui concernait, si je me souviens bien, le calcul des montants des impôts locaux qui étaient en COBOL. Et d'ailleurs, on a un développeur COBOL qui nous a annoncé sur notre antenne que le code ne fonctionnait pas à cause de grossières erreurs à l'intérieur. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Ludovic Dubost au Capitole du Libre pour parler financement du logiciel libre. Vous êtes le créateur du logiciel XWiki, qui est hosté par votre entreprise XWiki, que vous avez aussi créé. Présentez-nous, dans ce cas-là, le logiciel XWiki lui-même.
Alors, donc le logiciel XWiki, c'est un logiciel de collaboration qui s'adresse aux organisations. Organisation au sens large, c'est-à-dire tout groupe qui veut faire travailler ensemble un certain nombre de personnes. Donc ces organisations peuvent être des entreprises de taille moyenne, petite, grande, peuvent être des services publics. Dès qu'il y a un groupe, ils peuvent utiliser notre logiciel. C'est un logiciel qui a pour objectif d'améliorer l'organisation de l'information et de la connaissance. L'idée, c'est les entreprises et les organisations sont pas efficaces, elles perdent de l'efficacité dans l'échange d'informations, à ne pas retrouver l'information. Un nouvel employé qui arrive, un nouveau membre du groupe trouve pas l'information de ce qu'ont fait les précédents, etc., etc.
C'est toujours le grand problème, effectivement, de maintenir la connaissance dans un secteur.
Et donc, notre objectif, c'est de fournir des logiciels qui permettent de capitaliser cette connaissance, en particulier celle qui est un peu informelle, qui est pas forcément très, très bien structurée dans l'entreprise, des contenus où ça vaut le coup d'avoir des logiciels métiers très spécialisés pour maintenir toutes les données de ces systèmes. Puis à côté de ça, il y a tout un tas d'informations qui est très mouvante. On a besoin de pouvoir auto-organiser cette information. Et on fait ça sur le principe du wiki, qui est popularisé par Wikipédia, mais qui vient d'avant. C'est-à-dire que Wikipédia est une application du principe du wiki, c'est-à-dire d'interlier les informations afin de pouvoir naviguer dans l'information et de permettre aux gens d'en rajouter de façon la plus libre possible.
Pour nos auditeurs, on en revient en fait à la présentation d'Hugo Engelbart en décembre 68. On en a parlé dans une précédente émission, justement.
Alors, juste pour finir, avec le wiki, on se bat aussi sur le fait de transformer en fait la façon de travailler du mode fichier, qui est encore la majorité. Les gens s'envoient des mails avec des fichiers Word, vers vers un mode page internet.
Version finale, version définitive finale, version définitive plus 1.
Donc on se bat, on amène les gens à transformer leur façon de travailler et à éliminer un peu le principe du fichier qui a la dent dure, hein, parce que Microsoft le pousse, que Google s'est pas beaucoup embêté non plus, ils ont copié.
Oui, mais un fichier, on l'a sur une clé USB, on sait que c'est immuable, on peut le trimballer, on n'a pas de problème de connectivité, ça c'est la
C'est ça, mais on peut pas, mais en fait en pratique, il n'y a aucun lien entre les fichiers, entre eux, on ne met pas de lien, on ne relie pas les informations, et ça pose un tas de problèmes. Alors donc notre société fait des logiciels pour ça, et on les met en œuvre pour tout un tas d'usages, du support, de la collaboration généralisée, et donc on a des grands clients, des grandes entreprises qui utilisent notre logiciel, par exemple la SNCF l'utilise pour réparer les trains, donc on a des bases de connaissances sur les problèmes avec les trains, mais on a aussi par exemple l'encyclopédie de l'histoire de la Suisse qui a été déplacée sur notre système. C'est quelque chose qui existait depuis pas mal d'années et qui était un livre en fait fait en XML avant. Tout le système d'édition a été transformé sur notre système et vous avez une base de connaissances de l'histoire de la Suisse. On a tout un tas de cas d'usage avec des organisations de différentes tailles.
Donc ça veut dire que vous vous distribuez par mont et par canton de Vaud. Quelle est la structure de gouvernance finalement, puisque il y a une entreprise derrière? Est-ce que les utilisateurs qui ne sont pas clients de cette entreprise ont un droit de se faire écouter, arrivent à imposer des choses?
Quand j'ai développé XWiki, je l'ai développé directement en logiciel libre et j'ai eu des contributions assez tôt en fait, des gens qui ont trouvé le logiciel intéressant et qui ont dit tiens, il manque cette fonctionnalité, est-ce que je peux la faire ou est-ce que je peux la payer? On a eu un peu les deux cas et
là, je disais, sans contribuer justement, sans être client de l'entreprise XWiki SS.
Et on a eu des contributeurs assez tôt. Et donc, c'est posé la question à un moment donné. On paye des gens. Initialement, c'était moi qui développais. Puis ensuite, j'ai payé des gens. La société XWiki SAS qui a été créée en même temps, en fait, que XWiki a payé des gens pour développer le logiciel. Mais quand on a fait ça, on a voulu absolument le faire avec une gouvernance ouverte. Chez XWiki, on utilise la gouvernance de Apache. De la fondation Apache. Vincent Massol, qui est mon directeur technique et le directeur technique de XWiki, lui, il connaissait cette gouvernance parce qu'il avait géré des projets Apache. Et donc, il a mis en œuvre chez nous une gouvernance Apache. Donc, on a une séparation entre le site open source xwiki.org et le site de l'entreprise xwiki.com. On notera qu'on a le même nom. La marque XWiki, elle m'appartient personnellement. Elle n'appartient pas à la société. Et j'en donne le droit d'usage à la société XWiki.
Licence,
ouais. Voilà, j'en consigne une licence et qui est exclusive du point de vue commercial pour la société XWiki, mais qui ne peut pas remettre en cause le fait que la communauté open source utilise le nom XWiki. Il y a ces deux choses qui cohabitent. Au début, la société n'était pas appelée XWiki. Mais on l'a renommé parce qu'une des questions qui se posait, c'était comment, quelque part, la société XWiki obtient une sorte d'avantage, de bénéfice à avoir à faire ce logiciel libre. Comment on justifie que la société XWiki le fasse sous forme de logiciel libre? Ce qui, il faut être clair, ça ouvre le droit à la concurrence. Donc, on peut réutiliser notre travail, etc. Donc, quelque
part, le fait aussi que ça vous appartienne, ça veut dire que si jamais l'entreprise est revendue et que vous n'êtes pas en accord sur la suite...
On ne peut pas le piquer. Voilà. On ne peut pas piquer le nom, il n'est pas commercial. De ce point de vue-là. Donc l'élément important chez nous, c'est qu'on a gardé une gouvernance ouverte et la gouvernance de la communauté open source et du site xwiki.org, elle est faite de façon ouverte et méritocratique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe qui peut venir et on fait des votes, les votes sont à l'unanimité au passage, mais en général on est toujours traité, donc il y a des contributeurs qui peuvent venir. Et un autre point, sur xwiki.org, à la base c'est pas un site commercial, c'est un site qui présente le logiciel. Ceci dit, on met en avant quand même les choses que peuvent faire les providers commerciaux. Et là, les règles qu'on a mis en place, c'est de dire on va mettre en avant en fonction du niveau de contribution au logiciel XWiki. Ça veut dire qu'on ne s'interdit pas de faire du commercial autour de cette plateforme XWiki, mais ça doit être fait avec des règles qui sont faires et qui sont ouvertes et qui ne créent pas un monopole de la société XWiki sur le logiciel.
Combien il y a de milliers de lignes sur XWiki et dans quel langage?
Beaucoup. C'est du Java.
Donc beaucoup, forcément.
C'est fait
en troll.
C'est fait en Java et puis avec un langage de script interne. Et il y a beaucoup de JavaScript aussi. beaucoup d'HTML même. C'est pas un langage en lui-même, c'est un format.
Si, descriptif.
Ouais, c'est un format descriptif. C'est du web et il y a beaucoup de lignes. Mais à une époque, j'avais fait un peu des calculs, mais dans le logiciel, on utilisait probablement autant de systèmes externes que d'internes, c'est-à-dire de développement que nous on avait fait, que de code, de librairie qu'on utilisait.
Oui, donc, on va pas repartir à zéro à chaque fois. Ouais.
On repartait pas à zéro. Donc on utilisait énormément de logiciels open source dans notre plateforme.
Et quand on a un projet open source qui commence à être gros, est-ce qu'il faut systématiquement l'adosser à des entreprises comme Automattic pour WordPress, Google pour une multitude, donc Chrome et Android, MySQL pour Oracle, et quelles en sont à partir de là les limites ? Celles où ce n'est plus finalement le logiciel restant soit théoriquement open source ou logiciel libre, mais n'est plus au service finalement de ses utilisateurs.
C'est une question qui est très compliquée et qui dépend aussi du type de logiciel et du fonctionnement. On voit des cas où il y a des communautés qui marchent avec très peu de sociétés ou en tout cas avec une communauté très ouverte, voire des bénévoles. Il y a d'autres cas où c'est beaucoup plus compliqué. Quoi qu'il en soit, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en fait, un logiciel libre, il n'avance pas s'il n'y a pas quelqu'un qui est payé d'une façon ou d'une autre pour le faire avancer. Et le payer, alors il peut se payer lui-même, ça veut dire qu'il donne de son temps personnel, donc le développeur du soir, en fait, qui contribue à un logiciel libre, où il est payé par un client qu'on a besoin, par une entreprise qu'on a besoin, ou il est payé par une société qui en fait un business autour. Tout est possible. Je pense qu'il n'y a pas de bien et de mal de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a juste des problèmes différents et des difficultés différentes et des conséquences différentes en fonction du fonctionnement. Par exemple, les risques qu'il y a autour des entreprises qui sont faites autour du logiciel, elles sont plus dans quel droit elles s'octroient et à qui appartiennent ces droits et est-ce qu'ils peuvent pas changer de main à un moment donné. Un des problèmes autour de MySQL, c'est que le nom appartient à MySQL, racheté par Oracle, et que en fait, Oracle s'octroie le droit de changer la stratégie de ce nom, pas uniquement de la solution open source. Par contre, MySQL étant open source, aujourd'hui, il y a MariaDB, il y a un fork, voilà.
Donc, il y en a plusieurs même.
Et il y en a d'autres. Il y a Percona qui fait aussi beaucoup de choses autour de MySQL, etc. Donc, l'élément clé de l'open source, c'est le code source libre. C'est pas tout ce qu'il y a autour, mais la gouvernance a quand même beaucoup d'importance et à qui appartient cette gouvernance et qui la contrôle. Maintenant, nous, on peut avoir la meilleure gouvernance de la Terre si nous, on fait faillite parce qu'on marche pas économiquement. Ça reviendra au même que Oracle arrête d'investir dans MySQL parce qu'ils estiment que c'est pas leur intérêt et qu'ils vont couper l'investissement autour de MySQL.
Et puis que ça les agace d'acheter un logiciel concurrent gratuit et qui a moins de bugs que ce qui déjà est un exploit de faire plus de bugs que MySQL.
Donc c'est pas un problème simple. Cette problématique-là, il faut que les gens qui font avancer le logiciel puissent vivre correctement. Parfois, le bon modèle, c'est une association. Dans d'autres cas, c'est une entreprise. Voilà. Moi, j'ai quelques doutes sur les modèles à venture capitaliste. C'est-à-dire que quand l'investisseur met les pieds dans un logiciel libre, dans une communauté, il faut quand même pas oublier son objectif. Son objectif, c'est d'en tirer des bénéfices les bénéfices et les recherches de bénéfices des investisseurs, c'est 10 fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 5, c'est pas une petite marge. Moi, ce que je sais, c'est que en tant que société XWiki, on arrive à faire des marges sur un logiciel libre. On arrive à gagner de notre vie sur un logiciel libre. Par contre, est-ce que c'est facile de faire les marges qu'attendent un investisseur de type capital risque? Là, c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais, ça, je veux bien croire. Comment peut se financer une entreprise justement autour du logiciel libre? Il y a la licence, le support, la formation, la demande d'évolution par un utilisateur, le crowdfunding, le SaaS, donc la solution payante en consultation via cloud, l'implémentation de logiciels publicitaires espions, ou plus simplement du burn cash flow financé donc par les ventures capitalistes, puisqu'on en a parlé.
Ouais, t'as presque tout là.
Alors c'est quoi qui manque? La vente de t-shirts,
la subvention,
la licence de dessin animé à partir de la mascotte,
les subventions publiques. Le crédit impôt recherche, les subventions européennes. Non mais faut pas le négliger. Le financement par le client aussi, ça fait partie du service, mais c'est presque plus intéressant que le service, parce que ce qu'on appellerait le service, c'est quelqu'un met en œuvre le logiciel libre, on nous paye pour le faire. Mais ça, ça fait pas des gros, ça ramène pas beaucoup d'argent au logiciel libre, hein, parce que les marges sont pas très importantes sur le service. Par contre, le paiement direct d'une fonctionnalité nouvelle au logiciel libre, ça ramène de l'argent directement pour le développement du logiciel
libre. Et qu'il y a une vraie demande d'utilisateur derrière, donc il y a en plus, on peut y associer une démarche UX.
Exactement.
Qui est intéressante,
ouais. Le risque, c'est que, en fait, le problème de ce type de financement, c'est qu'une fois qu'on trouve que le logiciel fait suffisamment de fonctionnalités, on arrête de mettre de l'argent. Donc on ne paye pas la maintenance. En fait, une des difficultés pour quelqu'un qui fait du logiciel libre, c'est comment je finance les choses qui ne se voient pas. Comment je finance la maintenance, les heures de travail à améliorer les fondations de la maison pour qu'elles ne s'écroulent pas.
Les fameuses technical stories, donc justement ce qui est les fondations.
C'est une grosse difficulté, c'est ce qui est arrivé avec le cas de SSL. Finalement, SSL, ça marchait bien, OpenSSL, c'était utilisé par tous les sites web. Tout le monde se basait là-dessus, hein, y compris...
Toutes les banques, toutes les entreprises qui faisaient de la sécurisation,
les gars,
donc Creepad...
Il y a des milliards de...
Et OpenSSL avait budget inférieur à 50 000 dollars, je crois même pas, de quoi payer qu'une seule personne.
On pourra en parler avec Creepad, nous, on n'a pas forcément besoin de SSL, parce que comme c'est chiffré avant, c'est chiffré deux fois, finalement. Mais, en gros, toutes les transactions bancaires sur un site web d'une banque vont passer par là, et le problème, c'est qu'on... Hop, le bug Heartbleed, et on s'est rendu compte que on se rend compte mais pourquoi il y a ce bug, parce que les gars, il y a personne qui s'occupe du code. En fait, il y a deux développeurs qui font ça dans leur temps libre, et donc là ils ont mis des sous, les gros acteurs ont mis des sous dans une fondation pour qu'il y ait un financement et qu'on finance des développeurs. Alors il y a une prise de conscience
et puis tout le monde s'y est mis tout d'un coup, même Cisco, même des banques européennes, je crois que c'était la Deutsche Bank qui avait donné une grosse donation tout d'un coup, parce qu'ils s'étaient rendu compte que c'était critique et que tout leur business reposait maintenant dessus, quoi.
Voilà, donc on prend un peu conscience de ce financement des communs. Alors, il faut quand même appeler
pour ça... SSH en plus, OpenSSL, il y avait en plus un problème, c'est que le logiciel libre, normalement, c'est censé aussi être interchangeable dans
là,
une bonne logistique. Tout le monde avait le même. Je crois qu'il y a que Mozilla qui avait un truc qu'eux-mêmes avaient abandonné et qu'ils ont relancé après coup. Ça pose beaucoup de soucis.
Ouais. Alors après, ça reste ce qu'on peut appeler du commun du capital. Il y a eu un article là-dessus, si vous le cherchez sur Internet. C'est un aspect intéressant, c'est que finalement, quand les gros acteurs qui gagnent de l'argent avec l'Internet décident de financer l'infrastructure Internet, y compris open source, bon, ils en ont besoin, ils mettent un peu de sous. C'est plus une histoire d'organisation, de choses dont ils ont besoin et de remettre. Par contre, ça règle pas tout et ça permet pas au logiciel libre de s'étendre partout où il serait intéressant qu'il s'étende. Et c'est là qu'on peut arriver sur les aspects éthiques du logiciel libre et les problématiques éthiques qui sont pas financées aujourd'hui. Il y a des masses de logiciels libres, mais ça reste une grande partie du logiciel libre d'infrastructure. En fait, c'est beaucoup plus dur de financer le logiciel libre utilisateur final. XWiki, Creepad sont des logiciels de ce type-là. On a trouvé certains moyens de financement, et quand on en essaye d'en mettre d'autres, c'est plus compliqué. Moi, alors, dans ma propre société, avec XWiki et Creepad, je vois les différentes difficultés de ces modèles, puisqu'on on a plusieurs modèles, puisqu'on a des gros clients d'un côté sur XWiki, on a un service cloud qui s'adresse plutôt à la PME, qui se retrouve en concurrence avec tous les services cloud logiciels sur Internet. Et puis avec Creepad, on s'adresse quasiment à l'utilisateur final, voire l'individu.
Donc vous êtes en concurrence avec Framapad, du coup.
Et on est en concurrence avec Framapad, qui a un financement de type associatif. Et donc en fait, on voit un peu les différents types de financement auxquels on peut accéder. Et moi, je vois aussi les montants que ça peut représenter. Et les avantages de chaque modèle. Parce qu'il n'y a pas de modèle parfait, hein. Faut être clair. Il y a plein de méthodes. Donc ce qu'on a loupé, la subvention. Alors la donation avec des choses comme Open Collective commence à se redévelopper.
Oui, mais je crois qu'une entreprise ne peut pas avoir une donation anonyme. Il faut qu'elle vende un service à côté ou un produit.
Si, on peut avoir une donation. On fait des factures de donation, c'est pas un problème. Par contre, il y a de la TVA. En fait, c'est une donation pour l'amélioration du logiciel. Donc, on facture ça à travers Open Collective. Nous, on n'a pas de difficulté de ce point de vue-là. Après, c'est pas une donation d'intérêt public.
Oui, c'est pas déductible.
Mais ceci dit, le logiciel libre a un aspect intérêt public, et donc les associations d'intérêt public, typiquement Framasoft, récupèrent de l'argent et le réinvestissent dans du logiciel libre. C'est déduit des impôts, donc c'est possible de financer du logiciel libre de cette façon-là. Après, voilà, il y a plein de modèles. Ça peut passer par des associations, ça peut passer par des entreprises, etc.
La solution SAS, donc d'avoir un service qui est hébergé en cloud et on n'a plus qu'à sortir la carte bleue pour utiliser le service, est-ce que ce n'est pas aussi un risque que le logiciel ouvert soit abandonné à terme pour garantir à l'entreprise qu'un concurrent ne vienne pas casser les prix ? Alors je le dis d'autant plus qu'à la radio, on a eu le cas avec un logiciel professionnel de diffusion qui s'appelle AirPlay, qui n'est plus disponible qu'en SAS et qui du coup est impratique pour notre radio.
Alors, oui, il y a toujours des risques. Hein. Dès qu'on donne de l'argent à quelqu'un, il y a toujours un risque. Alors maintenant, moi, je reviens à une chose importante. L'élément important, c'est la licence. À qui on paye pourquoi, finalement. On donne pourquoi ou voilà. Aujourd'hui, à partir du moment où vous donnez un service SaaS, il vaut mieux donner un service SaaS qui contribue massivement à du logiciel libre que de donner un service SaaS qui ne contribue pas massivement au logiciel libre. Et donc massivement, ça peut être quel pourcentage de son revenu.
Donc il faudrait une obligation de déclaration pour les services SaaS. Il faut arriver à pousser que ça devienne
oui,
un argument commercial.
Oui, et ça viendra des utilisateurs qui le demandent ou qui ne le demandent pas. Donc après, il est vrai qu'il n'y a aucune garantie sur l'investissement futur de ce service-là. Finalement, tout développeur de logiciels libres peut arrêter de faire du logiciel libre. Par contre, il ne peut pas enlever ce qu'il a fait. Et ça, c'est un élément qui est très important. Quand vous utilisez gratuitement un service gratuit qui est propriétaire, mais il peut enlever ce qu'il a fait. On va utiliser Google, c'est gratuit, c'est génial. Et puis demain, il peut rendre le système payant. On a utilisé massivement Google Maps. Google Maps était mis gratuitement sur tous les sites. Tous les sites pouvaient mettre une carte sur leur site. Et c'était gratuit. Puis un jour, ils ont dit, maintenant c'est fini, c'est plus gratuit. C'est pas du logiciel libre. Ils ont pu arrêter et donc ils ont dit aux gens, maintenant, soit vous payez, soit vous enlevez vos cartes. Et pendant tout ce temps, tout ce pub qu'on a fait à Google Maps, elle n'a pas permis au développement de solutions alternatives comme OpenStreetMap, qui ont eu moins de moyens. On a empêché ces solutions de se développer. Donc, il y a quand même une sacrée différence entre payer un service SaaS qui fait du logiciel libre et qui pourrait arrêter demain s'il trouve que ça ne marche pas assez bien, que faire la même chose avec un service qui est propriétaire et dont on n'a aucune idée, enfin, ou qui peut changer ses tarifications, etc. Nous, on a le cas avec CryptPad. CryptPad, c'est un service SaaS gratuit, très facile à utiliser. On prend des abonnements de 5 euros par mois dès qu'on dépasse 50 mégas. N'importe qui peut prendre le logiciel et l'installer et pas payer s'il ne le souhaite pas. Par contre, nos utilisateurs savent et on leur dit que s'ils payent, ils vont aider au développement de ce logiciel sous licence libre. Et ça va permettre l'amélioration. Si demain, on arrête, on ne peut pas enlever le code qu'on a fait. Voilà, on enlève que notre investissement futur et l'investissement futur qu'on fait dans ce logiciel libre. Alors, il peut y avoir une sorte de tromperie quand même. C'est-à-dire qu'on peut tromper. Maintenant, si ça marche, si on arrive à équilibrer les aspects financiers, il n'y a pas de raison de changer la stratégie. Par exemple, XWiki, si on arrive à faire fonctionner le système et à payer les employés avec, on n'a pas de raison de changer. Alors, quand on a des VC, c'est un peu différent. parce qu'ils n'ont pas forcément exactement les mêmes objectifs. Et c'est là où le capital et l'investissement capitalistique, il crée une distorsion. C'est que l'investissement capitalistique, il ne se satisfait pas toujours du fait que ça marche. Il veut maximiser. Et là, il y a un truc antinomique. Parce que quand on veut maximiser, eh ben là, on peut casser la relation avec la communauté et la maximisation, elle peut passer par le fait d'arrêter ou ne pas faire ce qu'on a fait dans le passé. C'est-à-dire dire je renonce à mes engagements, je renonce à ce que j'ai raconté, j'ai dit que j'allais faire du libre pendant des années, etc. Finalement, moi, je peux dire ce que je veux sur le fait que je ferai du libre toute ma vie, etc. Si ma boîte fait faillite, ça ne changera rien. Donc, c'est entre chaque... personne et sa conscience.
Alors, entre les solutions, on avait donc les demandes d'abonnement, les dons volontaires, le crowdfunding, une bonne idée, mais quand même, il y a peut-être des limites. Tout le monde ne réussit pas un crowdfunding et au bout d'un moment...
Alors, moi, le plus gros problème
j'ai... C'est les premiers et actuellement les plus connus qui arrivent encore à tourner.
Ouais. Alors, le plus gros problème que j'ai avec le crowdfunding, qui est un système qui peut fonctionner, c'est la surpromesse.
Il y en a eu.
Il y en a beaucoup. Donc
ça sera l'objet d'une autre émission.
On peut promettre tout et n'importe quoi. Moi, si je vous promets que je vous fournirai une Ferrari, mais qu'elle coûtera moitié prix, il y a peut-être plein de gens qui diront ouais, super intéressant, allons-y, faisons-la. Après, ça peut être impossible à faire. Et donc le problème du crowdfunding, c'est ça. Donc ça encourage un peu le bullshit, la surpromesse, raconter des salades. Moi, j'aurais tendance à encourager les utilisateurs à se poser la question de bien financer ceux qui font des choses, ce qu'ils ont déjà fait. Regardez ceux qui ont créé des choses, mettez de l'argent, ça marchera. Si on donne plus de moyens à quelqu'un qui a déjà créé des choses avec pas grand-chose, eh ben il fera des belles choses. Donc c'est plus ça qu'il faut pousser que le crowdfunding où on vend une promesse potentiellement inatteignable. Mais après, il y a des bons crowdfunding. Framasoft fait des bons crowdfunding et c'est des gens raisonnables, ils promettent pas la lune.
Ou Wikipédia d'ailleurs.
Wikipédia, c'est pas tout à fait du crowdfunding.
C'est du chantage. On va disparaître.
C'est de la donation. Ils disent voilà, maintenez le système tel qu'il est, c'est le minimum. Nous, on a besoin de sous. C'est du chantage au gros bouton au milieu de l'écran et on peut le voir comme ça. Mais
dégage Jim Wells, tu m'as.
Alors moi j'appelle pas ça du crowdfunding, j'appelle ça de la donation, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est ce que propose Open Collective par exemple, c'est pas du crowdfunding, c'est de la donation, on fait pas de promesses sur la comète. On vend rien d'ailleurs hein. On ne vend pas un résultat, il y a pas de promesse que on livrera quelque chose en échange de des sous qu'on va recevoir.
Et vendre justement, vendre des goodies, ça rapporte vraiment ou est-ce que c'est trop d'investissement entre la création de produits, la gestion des boutiques, le stock, les invendus, créer la mascotte
Je pense que c'est un complément, mais ça reste un complément. La donation, le crowdfunding n'ont pas encore prouvé leur capacité à financer massivement tout type de logiciel.
Sinon, il reste une solution qui est celle des grosses fondations à but non lucratif, comme Mozilla. Donc Mozilla qui est une fondation qui chapeaute une entreprise qui est Mozilla.com pour développer les logiciels. Et du coup, la fondation a son équipe de leveurs de fonds avec de réels backgrounds commerciaux. Il faut passer par là au bout d'un moment.
Les fondations sont tout à fait intéressantes. Finalement, un point qui est intéressant de regarder, c'est de dire c'est quoi l'objectif de l'organisation à laquelle je donne de l'argent. Bon. Mozilla, c'est une association à but non lucratif. Ça veut dire que de toute façon, ils devront réinvestir leur argent. Par contre, ils peuvent effectivement payer des gens soit à rien faire ou voilà, ils peuvent mal utiliser cet argent. Mais
oui, ils peuvent détourner, ils peuvent qu'éditer Firefox, ils peuvent abandonner un produit comme l'ont fait pour Thunderbird ou lancer de nouveaux projets comme les projets sur la
question plutôt est de savoir si leur gouvernance est honnête et s'ils ont une bonne gouvernance et une bonne utilisation de cet argent. Mais en tout cas, donner de l'argent à Mozilla versus donner de l'argent à Google, on a quand même beaucoup plus de chances qu'il soit utilisé pour faire des projets libres et des projets qui réalisent cette mission. On peut être aussi une entreprise. Nous, notre gouvernance, c'est qu'on a envie de faire des projets libres en tant que société privée. Si on nous donne de l'argent, on va l'utiliser. Si vous donnez de l'argent à une boîte de services qui implémente du logiciel libre chez les autres, mais qui a zéro contributeur permanent, qui n'a pas créé un seul logiciel libre dans le cadre de ses 2000 ou 3000 employés, vous aurez l'impression que vous mettez de l'argent dans le logiciel libre, mais non, vous avez juste payé des gars qui, de toute façon, ont un seul objectif, sortir de la marge à la fin du trimestre en utilisant le logiciel libre comme un moyen. Finalement, en tant qu'utilisateur, ou en tant que même entreprise, en tant que consommateur, client, en tant que service public, c'est d'identifier les acteurs qui contribuent à l'écosystème et de diriger l'argent vers ces acteurs, donc diriger l'argent vers les makers, vers ceux qui font, plutôt que vers ceux qui prennent. Le modèle en lui-même, il n'est pas si important que ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut diriger de l'argent en achetant du service. Nous, quand on nous donne de l'argent pour faire des services X ou Y, bah peut-être qu'à la fin, si on n'a pas assez d'argent pour faire tenir Creepad, on va payer avec cet argent-là les personnes qui font Creepad. Parce que nous, on a envie que ce logiciel continue à exister. Donc, on va réinvestir aussi vers nos employés qui travaillent dans cette direction-là, mais on va le réinvestir aussi vers la création de nouveaux logiciels libres, si on peut le faire. Si on donne de l'argent à Framasoft, si on leur a donné trop pour un crowdfunding, bah, s'ils en ont trop, à la rigueur, ils le mettront ailleurs. Voilà, faut faire confiance aussi aux entrepreneurs et aux acteurs qui vont bien utiliser l'argent.
Evan Yu, le créateur du framework JavaScript Vue.js, expliquait dans le journal Le Monde qu'il touche plus de 16 000 $ chaque mois via Patreon. Il vaut mieux se cantonner aux tech à la mode pour en vivre Quid du legacy ou des nouvelles technologies finalement ? Si je veux devenir développeur qui contribue au logiciel libre, mais je veux bien en vivre.
La technologie reste un système un peu star system. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des, en fait, on parle de, dans la technologie de winner takes it all. En tant qu'utilisateur consommateur, on doit se poser des questions. Peut-être qu'il ne faut pas se laisser emporter dans cette mode. Si Vue.js arrive à bien se financer à travers Patreon et Open Collective, hein, il est sur Open Collective aussi, bah déjà tant mieux parce que ça veut dire qu'il a fait du bon boulot et il le mérite et il gagne probablement bien moins d'argent que ce que gagnent certains créateurs de sociétés de business technologiques qui ne partagent pas du tout leurs trucs en libre. Donc déjà, c'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui arrivent à bien gagner leur vie. Par contre, effectivement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On a ça aussi sur le cas des applis mobiles. Hein. Mmh. On parlait, faites votre appli mobile, regardez, il y a Candy Crush, il gagne $1 milliard, etc. Oui, mais pour chaque appli qui réussit, il y en a, il y a 250 000 développeurs qui ont failé. Il y a tout un tas d'histoires sur les créateurs d'Angry Birds, comme quoi c'était, ils ont fait 150 ou 70 applis avant qu'on foirait, voire ils avaient viré des gens 15 jours avant de commencer à gagner de l'argent avec Angry Birds. C'est un marché qui est un peu injuste, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui marchent et quand ils se mettent à marcher, ils marchent énormément, et d'autres qui marchent moins bien, et c'est pas toujours lié à la quantité de travail des personnes qu'il y a derrière. Donc en tant que consommateur et utilisateur, quitte à mettre de l'argent, faut pas non plus se laisser emporter à le donner uniquement à celui qui est tout en haut de l'affiche. Mmh. Il faut regarder aussi ceux qui sont en dessous, qui attirent un peu moins l'œil. Il faut donner à ceux à quoi soit on croit. En fait, on croit en tel type de logiciel, bah donnons une partie à ces types de logiciels. Et ensuite, il faut rendre responsables les personnes de montrer ce qu'ils en font. C'est-à-dire que finalement, le créateur de Vue.js, la question est de savoir qu'est-ce qu'il fait des $16,000. Est-ce qu'il embauche des gens derrière ? Il ne faut pas qu'il les garde tous pour lui.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Ludovic Dubost, au Capitole du Libre, pour parler financement du logiciel libre. Alors, les distributions Linux payantes avaient quasi disparu depuis l'an 2000. Elles reviennent avec des distributions Linux prévues pour Windows 10. C'est frustrant ou c'est encourageant au final ?
Alors, j'ai pas trop suivi cet aspect-là. Ça amène à une question qui est vraiment importante, c'est est-ce que le logiciel libre doit forcément toujours être gratuit ? Et ce problème de confusion entre libre et gratuit. Libre n'est pas gratuit et donc rien n'oblige à le faire gratuit. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que si vous essayez de faire un logiciel aujourd'hui qui soit libre ou pas, s'il n'y a pas quelque chose de gratuit, ça va être dur de se faire connaître. En termes de stratégie, la majorité des fabricants de logiciels vont avoir une part de gratuit dans leur stratégie. Dans la réalisation, quand on fait un logiciel, les coûts ne sont pas toujours ce qu'on croit. Le plus cher n'est pas forcément de le faire, le logiciel. Le plus cher peut être de le faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choix sur Internet, que ça soit un service cloud ou pas, le plus difficile, c'est de le faire connaître. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains qui ont utilisé la stratégie du logiciel libre comme un moyen de faire connaître, et puis dès qu'ils ont pu, ils sont partis vers la gauche, et
clic-clac,
ils ont changé de stratégie. C'est pour ça qu'on peut se faire aussi avoir en tant que consommateur sur le réel objectif des personnes qui utilisent la stratégie du logiciel libre comme un moyen de se faire connaître. Il faut vraiment pas confondre libre et gratuit. La gratuité est une nécessité quelque part pour justement faire participer les communautés. Et nous, en tant que consommateurs, d'ailleurs, on devrait fortement se poser la question de l'usage de services gratuits puisqu'on voit tout un tas d'autres problèmes qui viennent avec. Une majorité des services gratuits ont comme moyen de financement le tracking et la récolte de données. Et ça pose d'énormes problèmes. C'est justement un des problèmes qu'on cherche à résoudre avec Cripad. Si on veut faire un logiciel qui se retrouve concurrent de systèmes qui traquent, nous, on fait un logiciel qui ne traque pas. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va faire du revenu ? Bah, il faudra bien qu'on ait une stratégie pour générer du revenu. Si ce n'est pas en moyen équivalent à ce que fait le voisin, au moins suffisamment pour pouvoir développer le logiciel à un niveau de qualité suffisante. Le problème, il est énorme. Et donc, l'arrivée de logiciels payants, open source, il faut en tant que consommateur qu'on accepte ça. Il ne faut pas être libriste gratuitiste. Enfin, il faut se poser vraiment cette question de comment le logiciel est financé pour encourager le fait qu'il soit fait en libre.
Je remercie énormément l'organisation du Capitole du Libre et l'ANSET de nous filer une salle que l'on peut fermer à clé pour être tranquille pour en discuter. IBM a racheté Red Hat 47 milliards de dollars américains. Mais qu'est-ce qu'ils ont acheté dans le lot ? Seulement le portefeuille de clients ?
Ils ont acheté le portefeuille de clients, un savoir-faire, des tonnes de logiciels, des modules payants par-dessus le logiciel gratuit, les logiciels open source. Non, ils ont acheté des marques. Non, ils ont acheté beaucoup de choses. Et s'ils sont prêts à payer ce prix-là, c'est qu'ils pensent pouvoir en faire quelque chose. Alors, est-ce qu'ils l'ont surpayé ou pas, j'en sais rien. Moi, j'ai pas les détails.
C'est de la marque, hein. C'est comme les t-shirts. Mais avec de la marque.
Red Hat est une boîte qui marche bien, qui fait du chiffre d'affaires, et parce que les clients de Red Hat ont besoin des services fournis par Red Hat autour de ces logiciels. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Mais c'est un arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'en fait. Le fait que on puisse faire un business autour du logiciel libre d'infrastructure doit pas cacher le fait que on n'a pas forcément réglé le problème autour du logiciel libre end user, celui utilisé en finale par l'utilisateur. Aujourd'hui, la masse de ces logiciels, c'est Google, Facebook et compagnie. Et le business model dominant, c'est le tracking.
Ce que l'on veut.
Et c'est peut-être pas ce qu'on veut. Et on n'a pas encore trouvé les bons moyens de financer tous les types de logiciels libres et tous les types de logiciels éthiques. Et donc, on a encore beaucoup de travail dans cette direction-là.
D'un autre côté, Cisco a mis des sous pour des logiciels de compression vidéo en open source. Mais pourquoi ? Ils ont déjà leur licence MPEG 4 qu'ils ont acheté et qui sont dans tous les équipements de vidéoconférence qui mettent dans les entreprises.
Là, on ne parle pas tout à fait de logiciels d'infrastructure, on parle de briques technologiques qui vont être poussées. Ces entreprises ont quand même besoin de standards. Elles ont besoin.
MPEG 4, c'est plus qu'un standard, c'est une norme industrielle.
Oui, mais en fournissant des logiciels libres associés à ça, elles vont aider au fait que toute la chaîne fonctionne comme ça, et ça peut être utile à leur propre business de faire ça. Donc le logiciel libre est aussi un moyen de partage de briques qu'ils ont besoin de partager pour d'autres raisons, en fait. On aura toujours du logiciel libre, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La vraie question, c'est est-ce qu'on utilisera toujours du logiciel libre, mais on n'utilisera pas forcément un service libre. Et il y a une grosse différence de ce point de vue-là.
Comme je l'ai dit en intro de cette émission, Tristan Nitto a écrit une phrase qu'il n'utilise plus, car après coup, il s'est rendu compte qu'elle prêtait à confusion. « Si c'est gratuit, c'est vous le produit. » Alors, pourquoi le logiciel libre est gratuit ?
En fait, il l'est pas. Il est pas obligé de l'être. Le code source, il est gratuit. Le logiciel n'est pas obligé d'être gratuit. On peut faire un logiciel payant. CryptPad pourrait être payant dès la première seconde d'utilisation et ça pourrait être un logiciel libre pour autant. Par contre, quelqu'un qui prend le code source peut l'utiliser gratuitement. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire que le fait qu'on ne puisse pas complètement rendre payant le droit de partager le code source, ça fait partie des règles de gratuité. Mais en fait, initialement, le logiciel libre, les gens ne récupéraient même pas le code source gratuitement, parce qu'en fait, rien ne dit dans le logiciel libre qu'il faut le mettre sur GitHub ou sur Git ou sur Internet. En fait, le logiciel libre, il prédate Internet, et en fait, les gens, ils récupéraient les logiciels libres sur CD et ils payaient le CD.
Donc, ils payaient. C'était sur bande même, ça prédatait le CD.
Voilà.
On va pas tout ramener à Richard Stallman.
Non, mais l'élément important, ce qui est important, c'est le droit de leur donner. Le droit d'analyser le code source, c'est pas le fait de l'obtenir gratuitement. Donc, on peut faire du logiciel libre où pour obtenir le logiciel, il faut soit l'obtenir d'un autre utilisateur qui a payé, soit payé soi-même. Donc, on peut imaginer ces modèles.
Dans ce cas-là, c'est purement open source et c'est différent. C'était le business model d'ailleurs d'AT&T sur Unix.
Oui, mais...
Et c'était pas du logiciel libre dans ce cas-là, puisqu'on n'est pas dans les libertés du logiciel libre.
Ah si, on est toujours dans les libertés. Il faut payer pour obtenir le CD, c'est tout. Il faut payer pour que je vous donne le mot de passe du Git. J'ai le droit de le faire, j'ai pas dit que ça marcherait. oui. J'ai pas dit que ça marcherait comme stratégie. Pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, parfois le plus compliqué n'est pas de faire le logiciel le plus compliqué et de le faire connaître. Mais je vais donner un exemple. Nous, on le fait pour certaines briques de notre logiciel XWiki. En fait, on a des extensions payantes. Donc, quand on installe XWiki, c'est un logiciel open source. Il est gratuit, on le télécharge. On va dans extension, on clique sur extension et on cherche des extensions. On a des extensions payantes là-dedans. Mmh. En fait, elles sont toutes open source. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir le source de ces extensions. Mais par contre, pour les installer à partir de notre App Store, il faut payer. Il y a un check de licence, elles sont valables pour un an, etc. etc. Et si vous la voulez gratuitement, bah, allez chercher le Git, récupérez le code source, enlevez les checks de licence et faites-le tourner dans votre wiki. Vous pouvez le faire, vous avez tout le code. Tout le code est là. Mais le logiciel lui-même n'est pas... nous, on ne vous donne pas une version gratuite de ce package.
Du coup, vous achetez la facilité d'installation.
C'est ça. Mmh. Mais moi, je ne l'explique pas comme ça. Ce n'est pas ça que j'explique. Ce que j'explique aux clients, c'est il faut bien que nous, on ait un revenu. Mmh. Donc, soit vous participez à la communauté open source d'une façon ou d'une autre, soit vous payez. À vous de voir. C'est-à-dire que si vous les voulez gratuitement, si quelqu'un veut faire un business concurrent au nôtre, il peut décider de le faire. Et effectivement, le risque qu'on a, c'est que quelqu'un prenne les modules et les remette gratuitement dans la communauté. Mmh. Parce que lui, ça l'arrange. Et il pourrait le faire. Mais personne n'a envie de faire ça. Ils n'ont pas le temps. En fait, ils n'ont pas de temps à investir pour faire ça. Pour les autres.
Vous avez un ennemi qui vous en veut vraiment, vraiment.
Oui, ou quelqu'un qui vous en veut. Mais l'élément important dans l'affaire, c'est de pouvoir aussi démarrer un débat avec les clients pour leur expliquer ça. Et tous nos clients qui ont un contrat de support chez nous, ils ont automatiquement toutes les extensions payantes incluses dans le contrat de support. Donc, on ne leur fait pas payer plus cher pour obtenir. C'est juste que si vous voulez les extensions que vous n'avez pas pris de contrat de support, soit vous allez chercher le code source, vous débrouillez. Mais c'est une façon de voir. Il y a beaucoup de communautés open source d'ailleurs qui marchent comme ça. C'est-à-dire que finalement, le logiciel, il est open source, il est libre, mais il n'est pas facile à utiliser. Par exemple, on n'est pas obligé, nous, d'investir notre temps au niveau de CryptPad pour rendre facile l'installation de CryptPad. On n'est pas obligé de le faire. On a CryptPad.fr.
On va pas bitcher sur VI ou sur Emacs. Pour terminer, quel logiciel vous semble très important à soutenir financièrement ou par du temps? Alors, vous n'êtes pas obligé de citer les vôtres.
Moi, ce qui me paraît important de soutenir, alors il y a toute une gamme de logiciels qui font de la décentralisation aujourd'hui, qui sont très intéressants. Donc, c'est pour ça que moi j'ai soutenu Peertube. Il y en a d'autres aussi pour les photos, par exemple. Je pense qu'il faut soutenir aussi des solutions comme Matrix, qui sont pas mal financées aujourd'hui déjà. Matrix Riot, qui sont des solutions de chat. Intéressante. Je pense qu'il faudrait. Alors, et là, je ne sais pas si c'est le rôle des particuliers. On le verra. Il faut soutenir les technologies utilisées par les grands acteurs cloud qui ne sont pas open source. Donc, en fait, il y a tout un tas de technologies auxquelles il faudrait que tous les hosteurs indépendants aient accès, y compris OVH, par exemple, pour concurrencer Amazon Web Services, Microsoft Azure. Là, c'est plus le rôle de l'État. Il faudrait que l'État se pose des questions là, s'il veut des acteurs en Europe.
Il a tenté avec le cloud national.
Oui, mais il s'est trompé d'acteur, en fait. C'est ça le problème.
Ils se sont souverainement planté, oui.
Et il n'a pas soutenu des modules open source. Et en fait, ce qu'il faut, c'est soutenir des technologies open source qui seront accessibles à tous les acteurs de l'hébergement. Et à côté de ça, je pense qu'il faut soutenir des solutions collaboratives. Alors nous, on est dans le collaboratif, c'est pour ça que je cite un peu les miens. Mais de ce côté-là, c'est un axe aussi qui est très important, c'est les briques d'infrastructures de collaboration sur lesquelles, en fait, on est vraiment dépendant des solutions propriétaires aujourd'hui.
Ludovic Dubost, merci de nous avoir consacré du temps, donc de la société et du logiciel XWiki. On parlera aussi de CryptPad, donc une solution d'échange collaboratif chiffré et confidentiel, ce qui est très compliqué à faire techniquement. Merci beaucoup.
Merci Xavier.